Oui, alors Jean-Louis de Sales reste les aphasiques quand même de Jean-François Dortier. Qu'est-ce qu'on en fait?
Vous savez, loin de moi l'idée de réduire le langage à sa production. L'idée, c'est que si, pour prendre une très mauvaise image, si vous prenez lancer un programme dans un ordinateur, un programme par exemple comme les simulations que nous faisons tourner, si vous débranchez l'écran et le clavier de l'ordinateur, là ça continue à fonctionner. Donc l'idée, c'est que le langage, c'est pas seulement la production des mots, c'est pas seulement la syntaxe, c'est aussi la production du sens. Hein, c'est la capacité à conceptualiser. Donc si on inclut la capacité à conceptualiser dans le langage, c'est-à-dire le langage n'est pas apparu avant qu'on ait quelque chose à dire, à ce moment-là, je pense qu'on peut plus tomber d'accord. C'est-à-dire que cette capacité à conceptualiser, qui n'a d'autre fin que de communiquer, nous a permis, par ailleurs, en s'amplifiant, de devenir plus intelligent, de nous mettre à résoudre des problèmes de meilleure façon, et ainsi de suite. Donc moi, c'est comme ça que j'ai envie de défendre l'idée de Jacques Monod. Ça ne veut pas dire que je vais mettre comme primus movens le langage. Je pense effectivement qu'il y a un déterminant avant. Si on cherche un chaînon manquant, vous savez, le fameux chaînon manquant, on le cherche dans les squelettes. On a pléthore de squelettes. On a très peu de squelettes pour l'évolution des chimpanzés. On en a plein pour l'évolution humaine. Il y a toujours des gens qui vont vous réclamer un chaînon manquant. Bon. Mais ce qui nous manque, c'est un chaînon manquant conceptuel. C'est-à-dire... qu'est-ce qui nous a fait bifurquer au cours de l'évolution d'un mode de vie de type primate qui ne parle pas ou qui communique de manière, comme on dirait, assez répétitive. La communication des primates ou des animaux en général peut être très complexe. On ne comprend rien à la communication des dauphins qui dans la complexité nous échappe. Mais l'idée, c'est que leur communication, comme vous disiez, Jean-François Dortier, la communication des chimpanzés, finalement, ils n'ont pas grand-chose à se dire d'un point de vue humain. Hein, c'est un jugement peut-être de valeur. L'idée, c'est que notre communication diffère qualitativement de la leur. Et la question de savoir quel est le chaînon manquant, qu'est-ce qui a fait qu'on a bifurqué. Et mon candidat à moi, c'est pas le fait qu'on s'est mis à avoir un pharynx plus bas, à émettre des sons ou à pouvoir enchaîner des mots par une grammaire. Je pense vraiment que le chaînon manquant, c'est un changement d'organisation sociale. Nous avons une organisation sociale qui diffère qualitativement de celle des autres primates et qui fait que dans cette nouvelle organisation sociale, les individus ont intérêt à communiquer, ce qui n'est pas le cas chez les autres primates. Donc là, on a peut-être un chaînon manquant, et cette organisation sociale différente a pu entraîner le langage d'un côté, et d'autres choses, pourquoi pas l'expression artistique, ou d'autres, et même la religion, ou d'autres phénomènes qu'on considère comme proprement humains. Donc il y aurait une bifurcation qui serait de type d'organisation sociale qui aurait entraîné tout un tas de choses, le langage étant effectivement un élément assez fondamental, le langage et la pensée qui le sous-tend.
Alors bifurcation sociale, il faut que vous nous en disiez un peu plus tout de suite, parce que sinon les auditeurs vont attendre. Alors quel type d'organisation sociale, qu'est-ce qui se serait passé pour que justement on se mette à, comme vous disiez, à produire cette capacité à conceptualiser afin de communiquer?
Alors, moi j'ai un candidat, hein. Nous avons tous des thèses ce soir,
oui, mais
j'ai la mienne.
C'était interdit au 19e siècle, mais ça revient
voilà,
en
voilà.
France.
Voilà, donc je voulais vous dire qu'on a le droit de dire des bêtises librement maintenant.
Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que même dans les hypothèses les plus modernes, on retrouve des choses qui ont été émises aussi au 19e siècle et sans doute bien avant, et c'est aussi l'intérêt de l'émission de ce soir. Oui.
Voilà, la différence avec la situation du 19e siècle, c'est qu'à l'époque, c'était un peu comme le jour des fous, on pouvait dire un petit peu ce qu'on voulait sans critères. Pour essayer de tailler au sein de la forêt des hypothèses. Maintenant, la situation est très différente. C'est-à-dire qu'on a des moyens conceptuels pour se dire telle et telle hypothèse est fausse. Et donc, notamment les hypothèses qui viennent immédiatement à l'esprit, qu'on nous a beaucoup racontées sur le langage est utile à l'espèce, etc. Bon, on se rend compte que ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que c'est des scénarios qui ne fonctionnent pas. Et d'ailleurs, quand je les simule sur ordinateur, je vois très bien que les individus qui se taisent s'en sortent beaucoup mieux que les individus qui donnent bêtement des informations utiles à leurs concurrents. D'où l'idée d'avoir des scénarios. Donc moi, mon candidat, c'est une organisation, le fait que nous soyons une espèce politique, finalement. Hein. Nous ne sommes pas les seuls.
Les chimpanzés, c'est Aristote, là, voyez.
Voilà, on remonte à Aristote. On remonte aussi, un petit peu moins loin, un célèbre livre de Franz de Waal, qui a écrit un livre qui s'appelle La politique du chimpanzé, qui décrit notre espèce cousine comme une espèce éminemment politique, dans laquelle les individus font des alliances pour conquérir le pouvoir. L'idée, c'est que nous sommes encore plus graves que les chimpanzés à cet égard, c'est-à-dire que nous sommes une espèce très politique, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas nous empêcher de former des coalitions d'individus. Ça peut être des coalitions, ce qu'on appelle l'amitié, nous avons tous des amis, un réseau de relations, ça peut être des choses beaucoup plus formelles, pour ce qui se traduit dans nos sociétés modernes par les systèmes politiques proprement dit. Et l'idée, c'est que le langage vient s'insérer dans ce scénario politique comme un moyen d'afficher des qualités. Alors, évidemment, ce n'est pas un scénario très simple, mais c'est le scénario le plus simple que j'ai pu trouver qui soit compatible avec la théorie de la sélection naturelle. Et ça, je peux dire en deux mots pourquoi. Imaginez que chez nos ancêtres, il y ait donc deux belles créatures, appelons-les Ève et Léa. Et Ève se met à parler, à donner des informations utiles à ses congénères, et Léa se contente d'écouter ce que dit Ève, et surtout de ne pas dire les informations précieuses, de ne pas les donner aux autres. Le défi que nous avons pour expliquer l'essence du langage, c'est d'expliquer pourquoi nous descendons d'Ève et non pas de Léa. Parce que le bon sens voudrait dire qu'on descend de Léa et non pas d'Ève, puisque Léa dispose de ses propres informations plus celles que lui a données Ève. Donc on devrait descendre de Léa, or nous descendons d'Ève. Donc ça, c'est la partie difficile à expliquer si on veut rendre un scénario de l'émergence du langage compatible avec la théorie de la sélection darwinienne qui prévoit des comportements plutôt égoïstes. Donc là, le langage n'est pas un comportement égoïste. Les humains ont énormément de comportements qui ne sont pas égoïstes. C'est très difficile à expliquer dans le cadre de la sélection darwinienne. Ce n'est pas impossible.